doivent être des sanctuaires inviolables. L'école est un espace privilégié d'apprentissage, de socialisation, de protection et de construction de la citoyenneté, explique encore le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, soulignant par ailleurs que c'est depuis plus de 5 ans que l'Ituri faisait face à une hausse de l'insécurité à la suite d'attaques d'hommes armés contre des civils. Petit, où la dernière attaque a été menée contre une école et un centre de santé, est un village situé à environ 7 km à l'ouest de Bambou Centre, à environ 41 km au nord-est de Bounia.
L'actualité de cette semaine, c'est aussi cette mission de travail du coordonnateur résident du système des Nations Unies et représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, à Kisangani, du lundi au mercredi dernier. David McLachlan Carr est allé faire le point sur la mise en œuvre globale du programme intégré pour la réduction des effets des serres et la dégradation Pires plus orientale. Jacques Mukonkole, correspondant de Radio Kapi à Kisangani, nous fait le point.
Pendant son séjour de 72 heures à Kisangani, le coordonnateur résident du système des Nations Unies et coordonnateur humanitaire va procéder à l'évaluation des projets exécutés par le PNUD dans le cadre de la protection des forêts.
C'est une mission conjointe entre PNUD et MONUSCO, juste pour évaluer les projets qu'on a ici dans la ville et dans la province de Chopo, où se trouve la plupart de nos projets pour protéger les grands bassins du Congo et les forêts congolaises.
En outre, le coordonnateur humanitaire va s'entretenir avec les agences du système des Nations Unies afin de s'imprégner de leur travail.
C'est aussi pour mieux connaître le travail des Nations Unies qui sont représentées ici avec UNICEF, UNOPS, le Bureau des droits de l'homme, le PNUD bien sûr et les autres. C'est un peu une mission aussi de mieux connaître la situation à Chop, l'impact de nos projets ici.
Le représentant adjoint de la MONUSCO saisira également cette occasion pour sensibiliser les parties prenantes pour une meilleure adhésion et appropriation du programme. Jacques Mukonkole, qui Sangani, Radio Okapi.
Pendant ce temps, Madame Aoua Lise, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC, s'est rendue à Kananga, au centre du pays, pour lancer un programme d'encadrement des filles. Ce projet va concerner une 60aine de filles sélectionnées et ayant bénéficié des bourses du HACR pour des études universitaires. Une façon donc de venir en aide à ces filles victimes de violences sexuelles afin qu'elles deviennent utiles à la société. Madame Aoua Lise est au micro de François Kadima.
C'est du mentoring en anglais, mais je pense qu'en français, c'est l'encadrement pour qu'elles puissent devenir les femmes en dehors de leurs circonstances. Alors, je suis là avec des collègues et on va tout d'abord parler avec les directeurs de les 7 institutions qui les abritent, les universités sur place d'ailleurs. Donc il y a un entretien pour s'assurer que ce n'est pas le HACR seulement qui mène cette activité. C'est une activité qui a une pénétration globale pour les filles. Nous aurons 3 séances gérées par 3 différentes collègues. De mon côté, ce sera qu'est-ce qu'elles sont? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Et quel est votre avenir? Quelle est la direction que vous souhaiteriez aborder? Avec ces questions, on va les inciter, encourager à réfléchir et à se mieux connaître et à partir de ce moment, de se mieux gérer.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Rendons-nous à présent à Mbandaka dans la province de l'Équateur pour parler de la circulation des armes à feu des fabrications locales, particulièrement à Yakoma. Le fait est dénoncé par les réseaux pour la réforme du secteur de sécurité et de justice. Beaucoup d'habitants se procurent ces armes pour faire face à l'insécurité due au phénomène Kuluna. Pour en parler, Paul Richard Malengela a approché Gérard Lilengi, coordonnateur de ces réseaux pour les Grands Équateurs.
Révérend Gérard Lilengi, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi votre campagne de sensibilisation sur la circulation des armes légères à travers le Grand Équateur?
Nous avons pensé organiser une campagne de sensibilisation parce que les armes légères qui étaient autrefois achetées pour la chasse et pour la protection individuelle, aujourd'hui est devenue des armes qu'on utilise pour insécuriser, pour voler.
Vous avez dit que ces armes servent aussi à la sécurité. Alors la détention, le port et l'utilisation des armes légères, en l'occurrence le Yakoma, sont-ils un droit civil? Si oui, quelle est alors la procédure légale en la matière?
Au fait, c'est oui. Parce que la loi 85-035 du 3 septembre 1985 autorise la population à porter des armes légères qu'on appelle les armes de chasse. Et ces armes qui servent pour la survie. Et parmi les armes légères, il y a le Yakoma. Mais pour porter une arme, la procédure, c'est qu'il faut obtenir au préalable le permis de port d'armes. Donc, si on veut avoir un permis, on doit aller voir le ministre de l'Intérieur pour identifier son arme, si vous l'avez déjà, ou alors demander un permis avant pour dire que je vais acheter une arme pour telle raison, pour telle raison. Et le ministre, avec ses services, ils vont apprécier et vous donner le permis de port d'armes.
Donc, à part ça, c'est une détention illégale.
Oui, en dehors de l'autorité de permis de port d'armes, c'est une détention illégale qui est d'ailleurs une infraction. Parce que dans la loi que je viens de citer, il y a des infractions et des amendes à payer quand vous portez une arme. Alors à l'époque, c'était en Zaïre. On peut aujourd'hui dire que l'équivalent peut aller de 200 $ en montée. Ça dépend des types d'armes que vous avez.
Nous sommes dans le Grand Équateur. Les armes légères ont-elles le même risque que dans la partie est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui vous inspire cette crainte?
Bon, les armes légères ont les mêmes conséquences. Parce que quand les gens utilisent ces armes, prenons le cas de bandits, c'est pour tuer, c'est pour dévaliser, c'est pour commettre des bavures de toutes sortes. En plus de cela, la province de l'Équateur avait connu la situation des Agnellés. Les armes que les Agnellés ont utilisées n'étaient pas des armes militaires, c'était des armes de fabrication locale, donc les armes Yakoma. En septembre de 2012, si je ne m'abuse, il y avait un groupe de jeunes qui s'étaient levés dans la ville de Mbandaka et qui ont barré la route de l'aéroport. Ils ont empêché les gens d'aller à l'aéroport, ils ont empêché ceux qui étaient venus dans l'avion pour sortir. Il fallait une intervention militaire pour les déguerpir. Et ces gens étaient armés. Donc c'est l'arme Yakoma qu'ils avaient en possession et qui leur donnait la force. Et aujourd'hui, on voit des bandits, des Kulun à utiliser ces armes-là. Et on a la crainte qu'un jour, quelqu'un puisse rassembler le Kuluna avec des armes Yakoma et créer une mutinerie dans la ville ou dans la province. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas fermer les yeux. Voilà pourquoi nous avions été intéressés, considérant le nombre de cas de vols armés qui se passent dans la province de l'Équateur d'une manière générale.
Enfin, comment comptez-vous faire réglementer la circulation tant auprès des autorités que de la population elle-même?
Nous avions commencé avec les structures de la société civile, les autorités étatiques. Nous avions organisé une tribune d'expression populaire. On a aussi écrit un mémo à l'issue de cette tribune d'expression qu'on avait adressé au ministre de l'Intérieur, qui représente les gouverneurs de province. Et on fait la sensibilisation à la radio, où on va sensibiliser la population d'une manière générale, aussi les autorités. Donc nous allons continuer à marteler sur notre mémo pour que l'autorité puisse prendre en compte ce qu'on lui avait demandé dans le mémo. Aussi, on a demandé à l'autorité de faciliter les gens, parce qu'aujourd'hui il y a l'ambroglio. Il y en a qui disent que c'est le service de l'environnement qui octroie le permis de port d'armes, ce qui n'est pas légal. Et l'autre disent que c'est l'ANER. L'ANER fait le recensement et le renseignement, mais ne donne pas le permis. Donc on doit montrer aux gens chez qui aller demander pour que les gens ne puissent pas porter des permis qui n'ont pas de valeur en principe quand ils vont dans des services qui ne représentent pas valablement l'État.
Monseigneur Gérald Lilingué, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Dans la plaine de la Ruzizi, dans le territoire du Via, Accra, clôture d'une formation de 2 jours à l'intention des 50 acteurs locaux de la cité de Sangué sur les risques et menaces des catastrophes. C'est une initiative qui a bénéficié de l'appui du PNUD. Elle consiste à prévenir ou à gérer les risques de catastrophes dans la zone. D'après les coordonnateurs de la protection civile au sud Kivu, Adolphe Bandeke, cette région connaît de manière récurrente une perturbation climatique avec grosses pluies et incendies entraînant beaucoup de dégâts. Les femmes congolaises travaillant dans les secteurs des mines artisanales plaident pour la protection de leurs droits. Regroupées au sein du réseau national des femmes dans les mines, RENAFEM, elles ont annoncé un plan d'activité coulé sous forme de stratégie à mener d'ici 2030 qu'elles ont présenté au cours d'une cérémonie mercredi dernier à Kinshasa. Enfin, à New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté vendredi à l'Assemblée générale ses priorités pour l'année 2022, appelant ainsi tous les pays à se mobiliser pour affronter 5 défis urgents. Il s'agit de la pandémie de COVID-19, la réforme de la finance mondiale, l'urgence climatique, l'anarchie dans le cyberespace et les conflits. Ce n'est pas le moment de simplement énumérer et déplorer les défis. Il est maintenant temps d'agir. Tous ces défis sont, au fond, des échecs de la gouvernance mondiale, a déclaré le chef de l'Organisation des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invitée ce dimanche est le représentant pays du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF poursuit ses activités dans le Grand Équateur depuis son implantation en 2006. Lors de sa visite de travail à Mbandaka cette semaine, Edouard Begdeder a déclaré qu'avec la dotation par l'État d'un nouveau bâtiment pouvant abriter ses services, son agence va à coup sûr pérenniser ses activités dans le Grand Équateur. Il s'entretient avec les correspondants de Radio Capi, Paul Richard Malengela.
Monsieur Edouard Begbeder, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelles sont les retombées de votre présente visite qui prend fin tout à l'heure?
C'est ma 5e visite au niveau de l'Équateur. J'ai eu de nombreuses conversations avec les autorités, notamment avec le gouverneur, pour faire le point de la situation des enfants. Puis nous avons discuté notamment comment accompagner de la gratuité. Et pour ce faire, l'UNICEF, avec le secours du Plan mondial pour l'éducation, a construit une quinzaine d'écoles au niveau du Grand Équateur, 5 au niveau de l'Équateur, ce qui permet d'avoir plus d'accès pour plus d'enfants. Donc ces 5 écoles, c'est un modèle qui est bien moins coûteux, 3 fois moins cher que les écoles, on va dire, classiques, et qui permet d'accélérer l'accès. Et nous ambitionnons, naturellement, qu'il nous faudrait au moins 100 écoles pour l'Équateur, pour remplacer les écoles sous la chaume ou sous les bambous. Et donc, avec le gouverneur, on voulait vraiment lancer un appel à d'autres partenaires, au gouvernement, et à d'autres partenaires de l'éducation, pour investir dans la région de l'Équateur, pour l'éducation.
Monsieur le représentant, le gouverneur de l'Équateur vient de solliciter l'intervention de l'UNICEF pour une assistance aux populations sinistrées à la suite du conflit communautaire à Djombo dans le territoire de Bassankoussou et notamment plusieurs élèves qui ont perdu leurs objets classiques et même des écoles qui ont été incendiées. Quelle est alors la réaction de votre agence?
Tout d'abord, on est très touché par ces problèmes qui ont eu lieu dans cette localité. C'est toujours très triste lorsqu'il y a un problème au niveau d'une communauté que l'on s'en prenne aux écoles. Et ça, j'avoue que je suis toujours très touché lorsque une crise entre différentes communautés, les personnes préfèrent détruire le bien pour les enfants. C'est vraiment terrible. Donc je pense qu'il y a 2 choses. On est en train de discuter d'un plan d'aide immédiat pour essayer d'apaiser la situation. Mais 2, d'avoir une discussion avec les communautés. On ne peut pas détruire un centre de santé, on ne peut pas détruire l'école. C'est de détruire l'avenir. Et ça, c'est très complexe. Et puis, avant de reconstruire une école, on a besoin de s'assurer que les communautés ne vont pas refaire la même chose. Sinon, on construit pour que ça soit détruit. Donc il y a une vraie discussion avec les communautés afin de voir quel type d'action ils peuvent, eux, avoir pour empêcher une destruction d'école dans le futur. Sinon, personne ne va venir reconstruire une école. si la communauté elle-même détruit l'école. Donc là, c'est vraiment une discussion communautaire avec eux pour essayer de comprendre. On est naturellement tout à fait prêt à l'aider, mais on peut l'aider que si à la paix et que si les communautés arrivent à trouver un espace de dialogue pour nous permettre, nous, les acteurs de développement et humanitaire, de venir les aider.
Au cours de votre mission, vous avez également procédé au lancement du projet d'adduction d'eau dans les hôpitaux de 15 zones de santé dans la province de l'Équateur. Alors, comment sera implémenté concrètement ce projet de 6 millions de dollars?
On a lancé ce projet aussi hier avec le gouverneur pour effectivement apporter non seulement de l'eau, mais l'assainissement, aussi les incinérateurs pour détruire les produits dangereux et aussi amener un minimum d'électricité pour pouvoir faire des accouchements et des opérations de nuit lorsque on n'a pas d'autres possibilités en utilisant l'énergie solaire. Donc on va le faire pour 11.